Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 45. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Monsieur de Valmont est parti ce matin, madame. Vous m'avez paru tant désirer ce départ que j'ai cru devoir vous en instruire. Madame de Rosemonde regrette beaucoup son neveu, dont il faut convenir qu'en effet, la société est agréable. Elle a passé toute la matinée à m'en parler avec la sensibilité que vous lui connaissez. Elle ne tarissait pas sur son éloge. J'ai cru lui devoir la complaisance de l'écouter sans la contredire, d'autant qu'il faut avouer qu'elle avait raison sur beaucoup de points. Je sentais de plus que j'avais à me reprocher d'être la cause de cette séparation, et je n'espère pas pouvoir la dédommager du plaisir dont je l'ai privée. Vous savez que j'ai naturellement peu de gaieté, et le genre de vie que nous allons mener ici n'est pas fait pour l'augmenter. Si je ne m'étais pas conduite d'après vos avis, je craindrais d'avoir agi un peu légèrement, car j'ai été vraiment peinée de la douleur de ma respectable amie. Elle m'a touchée au point que j'aurais volontiers mêlé mes larmes aux siennes. Nous vivons à présent dans l'espoir que vous accepterez l'invitation que M. de Valmont doit vous faire, de la part de Mme de Rosemonde, de venir passer quelque temps chez elle. J'espère que vous ne doutez pas du plaisir que j'aurai à vous y voir. Et en vérité, vous nous devez ce dédommagement. Je serai fort aise de trouver cette occasion de faire une connaissance plus prompte avec Mlle de Volanges, et d'être à portée de vous convaincre de plus en plus des sentiments respectueux, etc. Lettre 46. Le chevalier Danceny à Cécile Volanges. Que vous est-il donc arrivé, mon adorable Cécile? Qui a pu causer en vous un changement si prompt et si cruel? Que sont devenus vos serments de ne jamais changer? Hier encore, vous les réitériez avec tant de plaisir. Qui peut aujourd'hui vous les faire oublier? J'ai beau m'examiner, je ne puis en trouver la cause en moi, et il m'est affreux d'avoir à la chercher en vous. Ah, sans doute, vous n'êtes ni légère, ni trompeuse, et même dans ce moment de désespoir, un soupçon outrageant ne flétrira point mon âme. Cependant, par quelle fatalité n'êtes-vous plus la même? Non, cruelle, vous ne l'êtes plus. La tendre Cécile, la Cécile que j'adore et dont j'ai reçu les serments, n'aurait point évité mes regards, n'aurait point contrarié le hasard heureux qui me plaçait auprès d'elle. Ou si quelque raison que je ne peux concevoir l'avait forcée à me traiter avec tant de rigueur, elle n'eût pas au moins dédaigné de m'en instruire. Ah, vous ne savez pas, vous ne saurez jamais, ma Cécile, ce que vous m'avez fait souffrir aujourd'hui, ce que je souffre encore en ce moment. Croyez-vous donc que je puisse vivre et ne plus être aimée de vous? Cependant, quand je vous ai demandé un mot, un seul mot, pour dissiper mes craintes, au lieu de me répondre, vous avez feint de craindre d'être entendue. Et cet obstacle qui n'existait pas alors, vous l'avez fait naître aussitôt par la place que vous avez choisie dans le cercle. Quand, forcé de vous quitter, je vous ai demandé l'heure à laquelle je pourrais vous revoir demain, vous avez feint de l'ignorer, et il a fallu que ce fût Madame de Volanges qui m'en instruisit. Ainsi, en ce moment toujours si désiré qui doit me rapprocher de vous, demain ne fera naître en moi que de l'inquiétude, et le plaisir de vous voir, jusqu'alors si cher à mon cœur, sera remplacé par la crainte de vous être importun. Déjà, je le sens, cette crainte m'arrête, et je n'ose vous parler de mon amour. Ce « je vous aime » que j'aimais tant à répéter quand je pouvais l'entendre à mon tour, ce mot si doux, qui suffisait à ma félicité, ne m'offre plus, si vous êtes changé, que l'image d'un désespoir éternel. Je ne puis croire pourtant que ce talisman de l'amour ait perdu toute sa puissance, et j'essaie de m'en servir encore. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de sentir quelquefois le prix d'un mot, d'une expression consacrée par l'amour, ne trouveront aucun sens dans cette phrase. Oui, ma Cécile, je vous aime. Répétez donc avec moi cette expression de mon bonheur. Songez que vous m'avez accoutumée à l'entendre, et que m'en priver, c'est me condamner à un tourment qui, de même que mon amour, ne finira qu'avec ma vie.
I'd be blind without them.
Lettre 47. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Je ne vous verrai pas encore aujourd'hui, ma belle amie, et voici mes raisons, que je vous prie de recevoir avec indulgence. Au lieu de revenir hier directement, je me suis arrêtée chez la comtesse de, dont le château se trouvait presque sur ma route, et à qui j'ai demandé à dîner. Je ne suis arrivée à Paris que vers 7 heures, et je suis descendue à l'opéra, où j'espérais que vous pouviez être. L'opéra fini, j'ai été revoir mes amis du foyer. J'y ai retrouvé mon ancienne Émilie, entourée d'une cour nombreuse, tant en femme qu'en homme, à qui elle donnait le soir même à souper. Je ne suis pas plutôt entrée dans ce cercle que je fus priée du souper par acclamation. Je le fus aussi par une petite figure grosse et courte qui me baragouina une invitation en français de Hollande et que je reconnus pour le véritable héros de la fête. J'acceptai. J'appris, dans ma route, que la maison où nous allions était le prix convenu des bontés d'Émilie pour cette figure grotesque, et que ce souper était un véritable repas de noces. Le petit homme ne se possédait pas de joie, dans l'attente du bonheur dont il allait jouir. Il m'en parut si satisfait qu'il me donna envie de le troubler, ce que je fis en effet. La seule difficulté que j'éprouvais fut de décider Émilie que la richesse du bourgmestre rendait un peu scrupuleuse. Elle se prêta pourtant, après quelques façons, au projet que je donnais de remplir de vin ce petit tonneau à bière et de le mettre ainsi hors de combat pour toute la nuit. L'idée sublime que nous nous étions formés d'un buveur hollandais nous fit employer tous les moyens connus. Nous réussîmes si bien qu'au dessert, il n'avait déjà plus la force de tenir son verre. Mais la secourable Émilie et moi l'entonnions à qui mieux mieux. Enfin, il tomba sous la table, dans une ivresse telle qu'elle doit au moins durer 8 jours. Nous nous décidâmes alors à le renvoyer à Paris. Et comme il n'avait pas gardé sa voiture, je le fis charger dans la mienne et je restai à sa place. Je reçus ensuite les compliments de l'assemblée, qui se retira bientôt après, et me laissa maître du champ de bataille. Cette gaieté, et peut-être ma longue retraite, m'ont fait trouver Émilie si désirable que je lui ai promis de rester avec elle jusqu'à la résurrection du Hollandais. Cette complaisance de ma part est le prix de celle qu'elle vient d'avoir, de me servir de pupitre pour écrire à ma belle dévote, à qui j'ai trouvé plaisant d'envoyer une lettre écrite du lit et presque d'entre les bras d'une fille, interrompue même pour une infidélité complète, et dans laquelle je lui rends un compte exact de ma situation et de ma conduite. Émilie, qui a lu l'épître, en a ri comme une folle, et j'espère que vous en rirez aussi. Comme il faut que ma lettre soit timbrée de Paris, je vous l'envoie, je la laisse ouverte. Vous voudrez bien la lire, la cacheter, et la faire mettre à la poste. Surtout, n'allez pas vous servir de votre cachet, ni même d'aucun emblème amoureux. Une tête seulement. Adieu, ma belle amie. Postscriptum. Je rouvre ma lettre. J'ai décidé, Émilie, à aller aux Italiens. Je profiterai de ce temps pour aller vous voir. Je serai chez vous à 6 heures au plus tard. Et si cela vous convient, nous irons ensemble sur les 7 heures chez Madame de Volanges. Il sera décent que je ne diffère pas l'invitation que j'ai à lui faire de la part de madame de Rosemonde. De plus, je serai bien aise de voir la petite Volanges. Adieu, la très belle dame. Je veux avoir tant de plaisir à vous embrasser que le chevalier puisse en être jaloux. » Lettre 48. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, timbré de Paris. C'est après une nuit orageuse et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. C'est après avoir été sans cesse ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin et dont pourtant je n'espère pas jouir encore. En effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître plus que jamais la puissance irrésistible de l'amour. Et j'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées. Et déjà, je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligé de l'interrompre. Quoi ? Ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelque jour le trouble que j'éprouve en ce moment ? J'ose croire cependant que, si vous le connaissiez bien, vous n'y seriez pas entièrement insensible. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, image de la mort, ne mènent point au bonheur. Les passions actives peuvent seules y conduire. Et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que dans ce moment, je suis plus heureux que vous. En vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes. Elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour et d'oublier, dans le délire qu'il me cause, le désespoir auquel vous me livrez. C'est ainsi que je veux me venger de l'exil auquel vous me condamnez. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant. Jamais je ne ressentis, dans cette occupation, une émotion si douce et cependant si vive. Tout semble augmenter mes transports. L'air que je respire est plein de volupté. La table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Combien elle va s'embellir à mes yeux. J'aurai tracé sur elle le serment de vous aimer toujours. Pardonnez, je vous en supplie, au désordre de mes sens. Je devrais peut-être m'abandonner moins à des transports que vous ne partagez pas. Il faut vous quitter un moment pour dissiper une ivresse qui s'augmente à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Je reviens à vous, madame, et sans doute j'y reviens toujours avec le même empressement. Cependant, le sentiment du bonheur a fui loin de moi. Il a fait place à celui de privation cruelle. À quoi me sert-il de vous parler de mes sentiments si je cherche en vain les moyens de vous convaincre? Après tant d'efforts réitérés, la confiance et la force m'abandonnent à la fois. Si je me retrace encore les plaisirs de l'amour, c'est pour sentir plus vivement le regret d'en être privé. Je ne me vois de ressources que dans votre indulgence, et je sens trop, dans ce moment, combien j'en ai besoin pour espérer de l'obtenir. Cependant, jamais mon amour ne fut plus respectueux, jamais il ne dut moins vous offenser. Il est tel, j'ose le dire, que la vertu la plus sévère ne devrait pas le craindre. Mais je crains moi-même de vous entretenir plus longtemps de la peine que j'éprouve. Assuré que l'objet qui la cause ne la partage pas, il ne faut pas au moins abuser de ses bontés. Et ce serait le faire que d'employer plus de temps à vous retracer cette douloureuse image. Je ne prends plus que celui de vous supplier de me répondre et de ne jamais douter de la vérité de mes sentiments.
She was the one for me. She opened my eyes.
Lettre 49. Cécile de Volanges au chevalier Danceny. Sans être ni légère, ni trompeuse, il me suffit, monsieur, d'être éclairée sur ma conduite pour sentir la nécessité d'en changer. J'en ai promis le sacrifice à Dieu, jusqu'à ce que je puisse lui offrir aussi celui de mes sentiments pour vous, que l'état religieux dans lequel vous êtes rend plus criminel encore. Je sens bien que cela me fera de la peine, et que je ne vous cacherai même pas que depuis avant-hier, j'ai pleuré toutes les fois que j'ai songé à vous. Mais j'espère que Dieu me fera la grâce de me donner la force nécessaire pour vous oublier, comme je la lui demande soir et matin. J'attends même de votre amitié et de votre honnêteté que vous ne chercherez pas à me troubler dans la bonne résolution qu'on m'a inspirée et dans laquelle je tâche de me maintenir. En conséquence, je vous demande d'avoir la complaisance de ne plus m'écrire, d'autant que je vous préviens que je ne vous répondrai plus, et que vous me forceriez d'avertir maman de tout ce qui se passe, ce qui me priverait tout à fait du plaisir de vous voir. Je n'en conserverai pas moins pour vous tout l'attachement qu'on puisse avoir, sans qu'il y ait du mal. Et c'est bien de toute âme que je vous souhaite toutes sortes de bonheur. Je sens bien que vous allez ne plus m'aimer autant, et que peut-être vous en aimerez bientôt une autre, mieux que moi. Mais ce sera une pénitence de plus, de la faute que j'ai commise en vous donnant mon cœur, et que je ne devais donner qu'à Dieu et à mon mari quand j'en aurai un. J'espère que la miséricorde divine aura pitié de ma faiblesse, et qu'elle ne me donnera de peine que ce que j'en pourrais supporter. Adieu, monsieur. Je peux bien vous assurer que s'il m'était permis d'aimer quelqu'un, ce ne serait jamais que vous que j'aimerais. Mais voilà tout ce que je peux vous dire, et c'est peut-être même plus que je ne devrais. Lettre 50. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Est-ce donc ainsi, monsieur, que vous remplissez les conditions auxquelles j'ai consenti à recevoir quelquefois de vos lettres? Et puis-je ne pas avoir à m'en plaindre quand vous ne m'y parlez que d'un sentiment auquel je craindrais encore de me livrer, quand même je le pourrais, sans blesser tous mes devoirs? Au reste, si j'avais besoin de nouvelles raisons pour conserver cette crainte salutaire, il me semble que je pourrais les trouver dans votre dernière lettre. En effet, dans le moment même où vous croyez faire l'apologie de l'amour, que faites-vous au contraire que m'en montrer des orages redoutables? Qui peut vouloir d'un bonheur acheté au prix de la raison et dont les plaisirs peu durables sont au moins suivis des regrets quand ils ne le sont pas des remords? Vous-même, chez qui l'habitude de ce délire dangereux doit en diminuer l'effet, n'êtes-vous pas cependant obligé de convenir qu'il devient souvent plus fort que vous? Et n'êtes-vous pas le premier à vous plaindre du trouble involontaire qu'il vous cause? Quel ravage effrayant ne ferait-il donc pas sur un cœur neuf et sensible, qui ajouterait encore à son empire par la grandeur des sacrifices qu'il serait obligé de lui faire? Vous croyez, monsieur, ou vous feignez de croire, que l'amour mène au bonheur. Et moi, je suis si persuadée qu'il me rendrait malheureuse que je voudrais n'entendre jamais prononcer son nom. Il me semble que d'en parler seulement altère la tranquillité. Et c'est autant par goût que par devoir que je vous prie de vouloir bien garder le silence sur ce point. Après tout, cette demande doit vous être bien facile à m'accorder à présent. De retour à Paris, vous y trouverez assez d'occasions d'oublier un sentiment qui peut-être n'a dû sa naissance qu'à l'habitude où vous êtes de vous occuper de semblables objets, et sa force qu'au désœuvrement de la campagne. N'êtes-vous donc pas dans ce même lieu où vous m'aviez vu avec tant d'indifférence? Y pouvez-vous faire un pas sans y rencontrer un exemple de votre facilité à changer? Et n'y êtes-vous pas entouré de femmes qui, toutes plus aimables que moi, ont plus de droits à vos hommages? Je n'ai pas la vanité qu'on reproche à mon sexe. J'ai encore moins cette fausse modestie qui n'est qu'un raffinement de l'orgueil. Et c'est de bien bonne foi que je vous dis ici que je me connais bien peu de moyens de plaire. Je les aurai tous, que je ne les croirai pas suffisants pour vous fixer. Vous demandez de ne plus vous occuper de moi, ce n'est donc que vous priez de faire aujourd'hui ce que vous aviez fait, et ce qu'à coup sûr vous feriez encore dans peu de temps, quand même je vous demanderai le contraire. Cette vérité, que je ne perds pas de vue, serait à elle seule une raison assez forte pour ne pas vouloir vous entendre. J'en ai mille autres encore. Mais sans entrer dans cette longue discussion, je m'en tiens à vous prier, comme je l'ai déjà fait, de ne plus m'entretenir d'un sentiment que je ne dois pas écouter, et auquel je dois encore moins répondre. Lettre 51. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. En vérité, vicomte, vous êtes insupportable. Vous me traitez avec autant de légèreté que si j'étais votre maîtresse. Savez-vous que je me fâcherais et que j'ai dans ce moment une humeur effroyable? Comment? Vous devez voir Danceny demain matin. Vous savez combien il est important que je vous parle avant cette entrevue. Et sans vous inquiéter davantage, vous me laissez vous attendre toute la journée pour aller courir je ne sais où. Vous êtes cause que je suis arrivée indécemment tard chez madame de Volanges et que toutes les vieilles femmes m'ont trouvée merveilleuse. Il m'a fallu leur faire des cajoleries toute la soirée pour les apaiser. Car il ne faut pas fâcher les vieilles femmes. Ce sont elles qui font la réputation des jeunes. À présent, il est 1 heure du matin et au lieu de me coucher comme j'en meurs d'envie, il faut que je vous écrive une longue lettre qui va redoubler mon sommeil par l'ennui qu'elle me causera. Vous êtes bien heureux que je n'ai pas le temps de vous gronder davantage. N'allez pas croire pour cela que je vous pardonne. C'est seulement que je suis pressée. Écoutez-moi donc, je me dépêche. Pour peu que vous soyez adroit, vous devez avoir demain la confidence de Danceny. Le moment est favorable pour la confidence, c'est celui du malheur. La petite fille a été à confesse. Elle a tout dit, comme un enfant. Depuis, elle est tourmentée à un tel point de la peur du diable qu'elle veut rompre absolument. Elle m'a raconté tous ses petits scrupules, avec une vivacité qui m'apprenait assez combien sa tête était montée. Elle m'a montré sa lettre de rupture, qui est une vraie capucinade. Elle a babillé 1 heure avec moi, sans me dire un mot qui ait le sens commun. Mais elle ne m'en a pas moins embarrassée, car vous jugez que je ne pouvais risquer de m'ouvrir vis-à-vis d'une aussi mauvaise tête. J'ai vu pourtant au milieu de tout ce bavardage qu'elle n'en aime pas moins son Danceny. J'ai remarqué même une de ces ressources qui ne manquent jamais à l'amour et dont la petite fille est assez plaisamment la dupe. Tourmentée par le désir de s'occuper de son amant et par la crainte de se damner en s'en occupant, elle a imaginé de prier Dieu de le lui faire oublier. Et comme elle renouvelle cette prière à chaque instant du jour, elle trouve le moyen d'y penser sans cesse. Avec quelqu'un de plus usagé que Danceny, ce petit événement serait peut-être plus favorable que contraire. Mais le jeune homme est si céladon que, si nous ne l'aidons pas, il lui faudra tant de temps pour vaincre les plus légers obstacles qu'il ne nous laissera pas celui d'effectuer notre projet. Vous avez bien raison. C'est dommage, et je suis aussi fâchée que vous qu'il soit le héros de cette aventure. Mais que voulez-vous? Ce qui est fait, et c'est votre faute. J'ai demandé à voir sa réponse. Cette lettre ne s'est pas retrouvée. Elle m'a fait pitié. Il lui fait des raisonnements à perdre haleine, pour lui prouver qu'un sentiment involontaire ne peut pas être un crime, comme s'il ne cessait pas d'être involontaire du moment qu'on cesse de le combattre. Cette idée est si simple qu'elle est venue même à la petite fille. Il se plaint de son malheur d'une manière assez touchante. Mais sa douleur est si douce et paraît si forte et si sincère qu'il me semble impossible qu'une femme qui trouve l'occasion de désespérer un homme à ce point et avec aussi peu de danger ne soit pas tentée de s'en passer la fantaisie. Il lui explique enfin qu'il n'est pas moine, comme la petite le croyait. Et c'est, sans contredit, ce qu'il fait de mieux. Car pour faire tant que de se livrer à l'amour monastique, assurément, messieurs les chevaliers de Malte ne mériteraient pas la préférence. Quoi qu'il en soit, au lieu de perdre mon temps en raisonnement qui m'aurait compromise, et peut-être sans persuader, j'ai approuvé le projet de rupture. Mais j'ai dit qu'il était plus honnête, en pareil cas, de dire ses raisons que de les écrire. Qu'il était d'usage aussi de rendre les lettres et les autres bagatelles qu'on pouvait avoir reçues. Et paraissant entrer ainsi dans les vues de la petite personne, je l'ai décidé à donner un rendez-vous à Danceny. Nous en avons sur le champ concerté des moyens, et je me suis chargée de décider la mère à sortir sans sa fille. C'est demain après-midi que sera cet instant décisif. Danceny en est déjà instruit. Mais pour Dieu, si vous en trouvez l'occasion, décidez donc ce beau berger à être moins langoureux, et apprenez-lui, puisqu'il faut lui dire tout, que la vraie façon de vaincre les scrupules est de ne laisser rien à perdre à ceux qui en ont. Au reste, pour que cette ridicule scène ne se renouvelât pas, je n'ai pas manqué d'élever quelques doutes dans l'esprit de la petite fille sur la discrétion des confesseurs. Et je vous assure qu'elle paie à présent la peur qu'elle m'a faite, par celle qu'elle a, que le sien n'aille tout dire à sa mère. J'espère qu'après que j'en aurai causé encore une fois ou deux avec elle, elle n'ira plus raconter ainsi ses sottises au premier venu. Le lecteur a dû deviner depuis longtemps, par les mœurs de madame de Merteuil, combien peu elle respectait la religion. On aurait supprimé tout cet alinéa, mais on a cru qu'en montrant les effets, on ne devait pas négliger d'en faire connaître les causes. Adieu, vicomte. Emparez-vous de Danceny et conduisez-le. Il serait honteux que nous ne fissions pas ce que nous voulons de deux enfants. Si nous y trouvons plus de peine que nous ne l'avions cru d'abord, songeons, pour animer notre zèle, vous, qu'il s'agit de la fille de madame de Volanges, et moi, qu'elle doit devenir la femme de Gercourt. Adieu.
In cold days it is easy to behave and easy to believe in it. In cold days it is easy to see clear and easy to believe in it. You say winter's killing you, like you can stand the season. It has no smell of flavor. You're safer with me here. My tongue against the teeth, I think of nothing.